L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas Der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Je vais annoncer la prochaine conférence. Donc la semaine prochaine, il y a relâche pour une semaine. Et puis on se retrouve donc le mercredi 21 avril où nous recevrons Pierre Manant. Pierre Manant qui est directeur d'études à l'EHESS, qui est très connu pour ses travaux sur les pensées libérales, sur Tocqueville, et qui viendra nous entretenir de la naissance de la politique moderne entre le 15e et le 18e siècle. Il nous parlera de Machiavel, de Hobbes, de Rousseau, voilà. Ce soir, je remercie très chaleureusement nos deux invités. Nous sommes très honorés de recevoir M. Michel Zinc, membre de l'Institut, professeur au Collège de France. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'Agora des Savoirs. Et je remercie aussi très chaleureusement celui qui a accepté de bien vouloir vous présenter ce soir, M. Armand Strubel, qui est professeur à Montpellier 3, qui est directeur du département de lettres modernes et directeur du centre de recherche Moyen-Âge, Renaissance, Baroque. Passez toutes et tous une très bonne soirée.
Bon, on y va. On commence quand vous voulez. Alors évidemment, je pouvais me simplifier le travail en disant on ne présente plus Michel Zinc, mais comme c'est une maison sérieuse, nous allons faire le travail de façon honorable. Donc Michel Zinc, ancien élève de l'École normale supérieure, a commencé sa carrière à la Sorbonne. Il était professeur à l'Université de Toulouse, à Paris 4. Il est professeur maintenant au Collège de France, où il occupe la chaire des littératures, littérature au pluriel bien entendu, de la France médiévale. Il est membre de l'Institut, il est professeur invité dans un nombre d'universités que je ne vous lirai pas parce qu'on y passera la soirée. Il est docteur honoris causa de l'université de Sheffield. Lorsque vous êtes entré, vous avez vu et peut-être bientôt lu quelques livres qui étaient sur une table, mais c'est un échantillon même pas représentatif parce que, évidemment, la production de Michel Zinc est considérable, quelques dizaines d'ouvrages. Je cite les plus récents, Nature et poésie au Moyen-Âge, chez Fayard en 2006, Poésie et conversion au Moyen-Âge, au PUF en 2003. Je cite aussi les plus anciens, puisque la carrière a commencé par quelques solides pavés sur des thèmes importants qui ont renouvelé parfois des sujets, comme la pastorelle, la chanson de toile. Donc, la prédication en langue romane avant 1300, chez Champion en 1976. Et pour les autres, je ne dis peut-être pas la date. La Pastourelle, essai sur les chansons de toile, la subjectivité littéraire aux Presses universitaires de France, l'édition de Rudebeuf dans la collection Garnier. Bref, vous pourrez voir les pages internet consacrées à la bibliographie de Michel Zinck. Je vous le dis tout de suite, il a aussi écrit des romans policiers. Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval, un portefeuille toulousain, etc. Il est directeur de la collection Lettres gothiques, ce qui permet à quelques médiévistes besogneux de publier de temps en temps des livres. Il est co-directeur de la revue Romania. Bref, je pourrais passer toute la soirée à décliner tous les titres honorifiques de Michel Zinck, qui nous fait le grand honneur de venir nous parler ce soir. Moi, je l'ai connu il y a longtemps au séminaire de Daniel Poirion à la Sorbonne. Ensuite, il m'a accueilli quelquefois dans la collection Lettres gothiques, donc je l'ai croisé plusieurs fois. J'ai toujours vu en Michel Zinck un conteur extraordinaire et j'ai toujours connu son sourire, sa culture non seulement médiévale, mais il est incollable sur Bobby Lapointe et sur la chanson populaire. Vous pouvez même lui poser des questions après sur cela. Mais ce soir, le sujet n'est pas celui-là, c'est la naissance des littératures de langue romane à partir du latin. Donc pourquoi un jour s'est-on mis à faire des livres en langue vernaculaire ? Imitation, rivalité mimétique, liberté de création. Mais bon, c'est lui qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais pour écouter Michel Zinck, à qui je cède la parole. Merci.
Merci. L'excès d'éloges d'Armand Strubel, n'est-ce pas, avec quelque chose de suspect. Et effectivement, c'est suspect. C'est le signe d'une vieille complicité. N'est-ce pas, on ne peut pas en croire un mot, n'est-ce pas, parce que il était partial. N'est-ce pas. Il était partial. Et puis, comme je publie ses excellents livres dans Lettres gothiques, il veut que ça continue. Donc, il était partial et intéressé. Cela dit, ces bonnes paroles m'ont fait chaud au cœur, car je suis à la fois honoré, mais aussi impressionné de parler ici, dans ce programme admirable de l'Agora des Savoirs, dans cette salle gigantesque, et après et avant des orateurs beaucoup plus impressionnants que moi et qui traitent de sujets beaucoup plus importants. Et ou qui paraissent beaucoup plus importants. Et c'est peut-être cela, d'une certaine façon, qui me gêne le plus. Parce que, voilà, je m'insère dans une série de conférences. J'ai vu des thèmes qui ont traité, pour certaines, de l'origine de l'univers, de la vie, de l'humanité, des civilisations. Et à côté de tout cela, une causerie sur la naissance des littératures romanes paraît légère et frivole. Les enjeux ne se comparent pas. Vous savez, il nous semble toujours que plus nous remontons le cours du temps et plus décisives sont les découvertes qui nous attendent, plus grand l'espoir de trouver dans le passé de plus en plus reculé, une clé, une sorte de révélation sur nous-mêmes. Alors, que peut dans ces conditions nous apprendre le Moyen-Âge au regard du Big Bang, de l'apparition des hominidés ou même de l'Égypte ancienne ? Donc, c'est une première limite, c'est un peu trop récent. Et puis, autre limite, il nous semble que la littérature n'est qu'un canton limité de l'expérience humaine. Et aujourd'hui, nous ne comptons plus guère sur elle pour nous découvrir nous-mêmes. Nous attendons cette découverte de nous-mêmes, des sciences, d'autres choses, mais pas toujours de la littérature. Et nous n'attendons plus guère de celle du passé qu'elle nous fournisse un modèle de vie et un modèle de goût, comme cela a été le cas pendant des siècles et des siècles de notre civilisation. Alors, c'est vrai, n'est-ce pas ? J'arrive comme cela, les genoux en dedans et en tournant ma casquette entre mes doigts. C'est vrai, d'abord, nous ne remonterons guère ce soir au-delà d'un millénaire dans le passé, et ce sera pour parler de poésie. Alors. Mais cependant, cette durée qui est si courte au regard de l'histoire du monde, mais tout de même bien longue au regard d'une vie d'homme, cette durée a son avantage, à la fois lointaine et pas si lointaine que cela, parce qu'elle nous ramène à un état de notre civilisation très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais qui en même temps n'en est séparé par aucune solution de continuité radicale. Le Moyen-Âge est très loin de nous, mais c'est nous tout de même. Et si nous reprenons, pour faire savant, hein, on aime mieux la distinction, d'ailleurs pour faire savant, pas savant, c'est un truc archi-connu et ça traîne partout, la distinction de Gadamer entre les sciences de la nature qui reposent sur l'explication et les sciences de l'esprit, les Geisteswissenschaften, qui n'offrent pas d'explication mais qui font appel à la compréhension, eh bien, nous sommes vraiment dans ces sciences de l'esprit parce que les textes du Moyen-Âge exigent de nous un effort de compréhension considérable. Ils nous mettent toujours en danger de succomber à l'illusion d'une compréhension intuitive, toujours erronée, mais ils n'excluent pas, si nous sommes suffisamment prudents et si nous sommes suffisamment savants, la possibilité de cette compréhension. Il n'exclut même pas la possibilité d'une forme d'intersubjectivité. D'ailleurs, on a assez reproché à Gadamer de l'avoir pas exclu. Non. Nous pouvons espérer être touchés directement par les lettres médiévales et nous pouvons espérer, avec un effort, au-delà de ce goût spontané, atteindre un goût réfléchi et juste. Et il ne faut pas négliger cette proximité, même si ce n'est qu'une demi-proximité, parce que si nous n'avons pas de goût pour la littérature, pourquoi la lirons-nous ? Il y a toutes sortes de bonnes raisons de faire des sciences, mais nous autres, nous sommes à la merci du plaisir et de l'enrichissement que nous goûtons, que nous procurons. Mais pourquoi tout de même vouloir à toute force prendre en considération la poésie, s'agissant du Moyen-Âge ? Pourquoi n'être pas sérieux, au moins, et parler d'histoire ? L'histoire du Moyen-Âge, ça c'est sérieux, les historiens du Moyen-Âge nous le font assez sentir. Pourquoi parler de poésie ? Eh bien parce que les plus anciens témoignages et les témoignages les plus importants sur la naissance de nos langues sont les témoignages de la poésie. Et nous verrons dans un instant pourquoi et quel est le sens de ce fait. Et aussi parce que la littérature n'est pas pour les époques anciennes, et singulièrement pour le Moyen-Âge, la notion limitée qu'elle est aujourd'hui pour nous. D'abord, le mot « littérature » au Moyen-Âge a un sens tout différent du sens moderne. La notion existe sans exister, je n'entre pas dans cette question difficile pour l'instant. Mais enfin, ce qu'on peut appeler la littérature du Moyen-Âge, c'est, ou la littérature du Moyen-Âge couvre sous d'autres noms, tout ce qui s'écrit, c'est-à-dire l'ensemble d'un savoir dont on n'imagine pas à l'époque qu'il puisse avoir d'autres sources que les livres. Ce qu'on peut savoir sur soi-même, sur le monde, sur Dieu, les trois grandes questions qu'on se pose alors, eh bien, on le sait parce qu'on le lit dans les livres. On le lit d'abord dans le livre de la Révélation, dans la Bible, et puis on le lit dans le savoir des anciens, des païens, de tout le monde, mais on le lit dans les livres. On considère que par la littérature passe donc toute intelligence du monde, des hommes et de Dieu. Bon, assez de préliminaires lointains, j'en viens quand même à mon sujet, sinon on n'en sortira pas. Notre sujet, c'est-à-dire notre littérature, ou pour mieux dire, nos littératures, les littératures composées dans les langues modernes de l'Europe, ces littératures qui sont apparues au Moyen-Âge. Et c'est pourquoi, à propos d'elles, c'est vers le Moyen-Âge qu'il faut aller d'abord. pourquoi ces littératures sont-elles apparues au Moyen-Âge, ces littératures dans les langues modernes? Eh bien, pour une raison très simple, qui est qu'auparavant, ces langues n'existaient pas, soit parce que, ou bien elles n'existaient pas, ou bien elles n'étaient pas couramment écrites, et elles n'ont donc pas pu laisser de traces. Voilà. La chute de l'Empire romain d'Occident, vous voyez qu'on symbolise, mais de façon vraiment artificielle, par la déposition de Romulus Augustule en 476, ne marque pas plus la fin de la culture antique que les grandes invasions n'ont été ce déferlement qu'on imaginait autrefois venu engloutir la civilisation romaine comme une nouvelle Atlantide. Dans des conditions nouvelles, des conditions évidemment difficiles, des conditions évidemment marquées de rupture, de repli, de mutation, souvent pour nous déconcertantes. Dans toutes ces conditions, vous voudrez, les lettres latines restent vivantes. Elles ne s'écroulent pas du tout avec l'Empire. Et en passant aux barbares, selon l'expression consacrée, et en les amenant au christianisme, l'Église, qui est la seule institution à conserver sa stabilité, son autorité, ses cadres, au milieu des désordres politiques de l'époque, et qui les conserve malgré ses propres conflits, malgré le conflit entre l'arianisme et le catholicisme, l'Église assure la survie de cette latinité, et de cette latinité non seulement linguistique, mais culturelle. Et elle fait beaucoup mieux encore, parce que après des hésitations, après avoir hésité, elle se résout, ou elle se résout, elle le fait même avec enthousiasme, elle sauve l'héritage de la littérature antique païenne, comme l'y avait encouragé presque simultanément, au moment où les choses commençaient à craquer, saint Jérôme et saint Augustin. Il disait, il faut conserver cette littérature païenne comme une propédeutique pour la lecture et l'étude des textes sacrés, mais comme les Hébreux, en quittant l'Égypte au moment de l'Exode, ont emporté les dépouilles des Égyptiens, comme dit la captive païenne, eh bien, peut être intégrée dans le monde juif et épouser un Hébreu. Les deux comparaisons de Jérôme et d'Augustin. Et au VIe siècle, Cassiodore invite les moines, ces moines auxquels la règle encore récente, il avait succédé à la règle du maître, etc., mais la règle récente de saint Benoît leur imposait de consacrer, leur impose toujours d'ailleurs, de consacrer un tiers de leur temps au travail intellectuel et un tiers au travail manuel, un tiers à la prière. Eh bien, que faire comme travail intellectuel? Cassiodore leur dit copier des manuscrits et copier les grandes œuvres littéraires du paganisme. Et c'est ainsi que le Moyen-Âge a consacré une part considérable de son énergie intellectuelle, en somme, à préserver ses œuvres de la latinité, à réfléchir sur elles. Et c'est ainsi que la littérature latine, simplement, est parvenue jusqu'à nous, Emma. S'il fallait compter pour connaître les œuvres de la latinité sur les trois papyri qui se courent après, on n'en connaîtrait pas grand-chose. On connaît tout cela parce que, pendant tout le Moyen-Âge, les moines ont copié ces œuvres de l'Antiquité. Les latinistes éditent les œuvres latines à partir de manuscrits médiévaux. Et donc, il y a eu de vie de la latinité pendant tout le Moyen-Âge. La latinité antique continue à vivre et le latin, naturellement, reste une langue vivante. C'est la langue de la vie intellectuelle, c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue de l'Église et le mot « clerc », « clericus » désigne simultanément quelqu'un qui appartient à l'Église, qui a reçu au moins les ordres mineurs, qui sait les réécrire, qui sait le latin, sans que ces caractéristiques puissent être séparées très longtemps, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où on voit apparaître, ça s'appelle des clercs laïcs. Là. Encore à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, donc très tard, là, le grand mystique, poète, théologien catalan Raymond Lull, écrivant un traité d'éducation en catalan, Doctrina Pueril, dit, mais comme une sorte de nouveauté pédagogique prodigieuse, comme s'il était Philippe Mérieux soi-même, vous savez, on peut apprendre à lire et à écrire aux enfants directement dans leur langue. C'est pas la peine de leur apprendre en même temps, de commencer par leur apprendre le latin. Donc le latin est au centre. Le clerc est un clerc parce qu'il sait le latin, vous ai-je dit. Ça signifie que tout le monde ne le sait pas. J'insiste sur la survie de la latinité. Mais le latin reste une langue vivante pendant tout le Moyen-Âge. Mais un moment vient où il n'est plus une langue maternelle, où il n'est plus la langue maternelle de personne. La survie des lettres latines, l'utilisation du latin comme langue du monde savant, comme langue de l'Église, n'a pas empêché l'apparition d'autres langues. Le latin, donc, était la langue parlée dans les régions de l'Empire où la présence romaine était la plus forte, était la langue parlée, en gros, au sud du Limès, enfin, même pas exactement partout. Mais ce latin, naturellement, donc dans les Gaules, la péninsule ibérique, l'Italie, l'actuelle Roumanie, la Dacie, etc. Mais ce latin, c'était un latin parlé. Il était prononcé par des gosiers indigènes qu'il le déformait selon leur langue autochtone, qu'il avait appris de la bouche de légionnaires ou de commerçants qui ne s'exprimaient pas tous comme Cicéron, ou même généralement pas comme Cicéron. Il était mêlé d'éléments autochtones, et surtout, après les invasions, d'apports germaniques, et il évoluait rapidement. Et en outre, il n'évoluait pas de façon identique dans toutes les régions, puisque justement la langue locale, l'accent indigène, la présence d'une population germanique plus ou moins importante variait de l'une à l'autre. Et le latin officiel, la langue de la littérature antique, la langue dans laquelle la Bible avait été traduite et était lue, la langue de la liturgie, la langue de l'administration, y compris celle des royaumes germaniques, si soucieux, plus romains que les romains, plus si soucieux de se calquer sur le modèle, sur les usages de l'Empire, ce latin-là voyait, évoluait naturellement, mais voyait son évolution ralentie par cet ensemble de traditions et par la préservation d'un enseignement fondé sur les textes classiques. Mais le latin parlé changeait vite et il se différenciait, encore une fois, d'une région à l'autre. Et un moment est venu où il s'est trouvé si éloigné du latin officiel que le latin officiel n'a plus été compris spontanément et sans apprentissage. Le latin parlé était à ce moment-là devenu une autre langue, une langue nouvelle, ou plutôt des langues nouvelles, puisque il y avait eu ce morcellement dont je parlais. Donc, vous voyez, je dis des banalités, mais le passage du latin aux langues romanes s'est fait insensiblement, et l'identification de la langue parlée comme une langue différente du latin repose uniquement sur le critère pratique de la capacité ou de l'incapacité d'un locuteur non éduqué à comprendre le latin. Et sur ce critère, nous pourrions tout aussi bien considérer aujourd'hui que la langue parlée par une partie de notre jeunesse est une autre langue que celle de Corneille ou même de Chateaubriand et devrait recevoir un autre nom, qu'il est artificiel d'appeler tout ça du français. Je reviens au Moyen-Âge. À quel moment cette rupture s'est-elle produite? Eh bien, on commence à percevoir des signes dès l'époque mérovingienne. Le roi Chilpéric, le petit-fils de Clovis, avait proposé d'ajouter à l'alphabet latin des lettres grecques pour rendre compte de phonèmes nouveaux qui étaient absents du latin classique. Il voulait utiliser le delta et le theta pour noter le TH doux et dur anglais. Mais bon, ça n'a pas marché. D'abord, la continuité politique n'était pas suffisante. La volonté politique manquait, comme on dit. Et puis, ce n'était pas nécessaire parce que les choses se faisaient trop vite. Le temps qu'on applique la réforme, on ne prononçait déjà plus « Wiza, Wiza », n'est-ce pas ? On disait « Vie », et puis c'était fini. Et puis après, on a dit « Vie » pour passer de « Wita » à « Vie ». Ce n'est pas la peine. Bon. En tout cas, on peut considérer que la rupture est consommée à la charnière du 8e et du 9e siècle, à la fin du règne de Charlemagne. Et comment le sait-on ? N'est-ce pas ? Eh bien, la façon dont on le sait est extrêmement instructive pour les... Bon. Et nous verrons les conséquences qu'on peut en tirer. En 813, il y a eu un concile réuni à Tours. Et un canon de ce concile de Tours invite les prêtres à prêcher « in rusticam romanam linguam aut theotiscam ». En langue populaire, rustique, la langue des paysans, romane ou teutone, theotiscam, Deutsch. Et donc, c'est le signe qu'à ce moment-là, un prédicateur qui prêche en latin officiel n'est plus compris. Et tout le monde sait que 30 ans plus tard, en 842, lors d'une réconciliation éphémère entre deux des fils de Louis le Pieux, Charles Chauve et Louis le Germanique, les serments de Strasbourg sont prêtés en français, enfin bon, et en allemand par les souverains et par leurs armées. Chacun prêtant, enfin, avec des croisements. Les uns prêtant le serment dans leur langue, les autres dans la langue de l'autre, pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agissait. Et ce qui est encore plus extraordinaire, ces textes sont notés par l'historien Nithard dans la langue. Enfin, il y a ce souci de garder le texte même du serment, pour des raisons peut-être, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, peut-être politique. Nithard, qui était un cousin des souverains, était à la fois le chef d'état-major et le premier ministre de Charles Chauve. 40 ans encore, et le plus ancien poème français à nous être parvenu, la séquence de Sainte-Eulalie, est notée, est écrite en 881-82, on peut dater le manuscrit. Et nous, voilà, premier poème, nous sommes à la naissance des littératures romanes. Bon. Poème bien simple, Bona pulsella fut eulalia, bella vret cor, belle zuranima, tous mes collègues peuvent réciter ensemble, la voldre vintre, les dei inimi, la voldre fer, le dao, le servir, bon, etc. Alors, je m'arrête un instant pour deux brèves remarques. D'abord, malgré ce que dit le Concile de Tours, la langue romane et la langue teutone ne sont pas sur le même plan. La première, la langue romane, est en train de naître, plus exactement, les langues romanes sont en train de naître et de se différencier sur les débris du latin parlé. Mais les langues germaniques, qui ne dérivent pas du latin, et qui, au regard de l'ensemble des langues européennes, sont au niveau du latin, si vous voulez. Les langues germaniques existaient depuis des siècles, naturellement. Et de fait, les plus anciens monuments poétiques qu'elles nous ont laissés sont plus anciens que les plus anciens poèmes en langue romane. Et les tout premiers sont plus élaborés. Le Hildebrandslied allemand, le Beowulf saxon, enfin anglais. Mais cependant, pas beaucoup plus anciens. Parce que, et c'est ce à quoi je faisais allusion il y a un instant, ces langues n'ont été réellement écrites, à l'exception de brèves inscriptions runiques, qu'avec l'introduction de l'alphabet latin au moment de l'évangélisation des peuples germaniques. Donc en fait, tout s'est fait ensemble. Il y a eu le hasard, en fait, il y a eu cette synchronisation. Et il se trouve que peu de temps après leur apparition, les littératures romanes de Languedoc et de Languedoïle ont connu un développement extrêmement brillant et ont influencé pour un temps l'Europe entière, y compris germanique. La seconde remarque est d'un ordre tout différent, mais pour ce qui nous occupe ce soir, d'une importance plus grande. Ce n'est pas du tout par hasard que la première mention claire de la langue romane comme une langue différente du latin apparaît dans le cadre d'instructions données par des évêques en vue de la prédication. Et ce n'est pas par hasard si le premier poème conservé en français est un poème liturgique, car cette séquence de Sainte-Eulalie se trouve à la suite d'un poème français, latin sur Sainte-Eulalie et dans un office de Sainte-Eulalie. Et d'ailleurs, séquence, sequentia, c'est un terme liturgique pour désigner un poème qui suivait la jubilation de l'Alléluia, hein, sequentia, suivre, sequi, et qui était chanté sur le même air que la jubilation de l'Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard, parce que donc, cette langue des paysans apparaît. Cette langue des paysans, elle apparaît, enfin, c'est-à-dire que, mettez-vous à la place des clercs, des savants, des aristocrates. Voilà, bon, les cutéreux parlent de telle façon qu'on ne les comprend plus. C'est comme ça, on le voit dans ce sens-là, naturellement. Qui va s'intéresser à la façon dont ils parlent? Qui va s'intéresser à cette nouvelle langue née du parler déformé des ignorants, cette langue des humbles, cette langue rustique? Elle n'intéressait personne, et surtout pas les savants, les lettrés, les clercs, fiers de leur savoir, goûtant la saveur et le raffinement des lettres latines. Oui, mais ces clercs étaient en même temps des hommes d'Église. Et l'Église ne pouvait pas se permettre de négliger cette langue rustique, quelque mépris que cette langue inspira aux membres de l'Église. Si on voulait toucher les fidèles, on voulait que la pastorale fût efficace, comme disent nos seigneurs les évêques, enfin, sauf qu'ils n'emploient pas l'imparfait du subjonctif, enfin le mot pastoral, il fallait bien s'adresser au peuple dans sa langue, d'où le canon du Concile de Tours, d'où la séquence de Sainte-Eulalie, qui n'est pas du tout une traduction du poème latin qui la précède dans le manuscrit, qui est beaucoup plus simple, qui raconte simplement qui était Eulalie pour que les braves gens sachent pourquoi on leur avait dit d'aller à l'église ce jour-là. Et de même que l'église était passée aux barbares, eh bien, elle est passée à la langue vulgaire sous la contrainte de ses exigences pastorales. Et il n'est donc pas surprenant que si l'on fait exception du cas vraiment particulier et d'ailleurs énigmatique des serments de Strasbourg, les plus anciens textes conservés en langue romane, les plus anciens poèmes même conservés dans ces langues, soient des textes ou des poèmes religieux et qu'ils se présentent comme, soit comme des transpositions en langue vernaculaire de modèle latin, soit comme des incursions en langue rustique à partir d'une base latine. Alors ça ne veut pas dire que les jeunes langues romanes n'aient pas immédiatement produit, comme toutes les langues et toutes les civilisations, des chansons, des poèmes, des contes appartenant en propre à la culture de leurs locuteurs et non pas importés du monde savant sous la tutelle de l'Église. Encore une fois, ces langues ne sont pas le produit d'une rupture. Elles sont en continuité avec le latin parlé et des témoignages indirects attestaient depuis longtemps la présence de telles productions poétiques populaires. Bien sûr que cela existait, mais n'a pu nous parvenir que ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit, c'est ce que les clercs ont consenti à écrire. Et cela a trois conséquences. C'est pour cela que nous ne percevons d'abord qu'une littérature religieuse et importée, si on peut dire, du latin. C'est pour cela aussi que les traces rares et légères qui révèlent l'existence d'une poésie qui échappe dans des circonstances normales à l'écriture, c'est pour ça que ces traces sont si précieuses et pourquoi nous les traquons avec tant de soin. Et c'est pourquoi, enfin et surtout, le moment essentiel pour nous n'est pas le moment où on écrit un petit poème ou un bout de sermon dans un coin pour servir dans une intention parénétique, mais le moment où accède de manière abondante et comme naturelle à l'écriture une littérature vernaculaire, autonome, originale, qu'il est impossible de réduire à la simple transposition de modèles latins pour des raisons édifiantes. Et ce moment se situe à la charnière du XIe et du XIIe siècle, c'est-à-dire 200 ans après la séquence de Sainte-Eulalie. Il a fallu très longtemps pour que ça se fasse. Mais il a fallu longtemps. Mais ce moment aurait pu ne jamais arriver. L'éclair aurait pu ne jamais céder à la pression de sa jeune littérature, ne jamais l'écrire. Et là, la langue savante, la langue de l'élite aurait pu rester la seule langue de la culture écrite. Cela s'est vu dans d'autres civilisations. Et il y a des civilisations dans lesquelles la littérature écrite est uniquement dans une langue savante qui s'est conservée très longtemps. Alors, toutes les comparaisons sont boiteuses, et puis je parle de ce que je ne connais pas, mais regardez, l'effort, le sanskrit était une langue morte, et à un moment donné, cette langue, la pression littéraire, en somme savante, la pression lettrée a été si forte que le sanskrit a été ressuscité pendant un certain temps. Et est redevenu, à un moment donné, une langue vivante. Et la situation est différente à cause du Coran. Mais la situation de l'arabe littéral au regard des arabes dialectaux est une situation qui aurait pu être celle de nos langues et qui finalement ne l'a pas été. Alors, ces trois point que je viens de signaler, je vais les développer très rapidement. Jeter un coup d'œil sur les premiers textes d'inspiration religieuse, signaler les traces d'une autre poésie qui est à demi cachée, mais dont on devine cependant l'existence, et montrer l'importance de ces traces, dire en quoi consiste l'épanouissement du début du XIIe siècle, mais en restant sur le seuil de ce qui devient dès lors toute l'histoire de la littérature française et occitane, n'est-ce pas, en tirant le fil, ce serait sans fin. Donc, les premiers textes sont des textes religieux, ça je le dis très rapidement, et on voit simplement une petite autonomie apparaître, mais qui ne va pas jusqu'à rompre le cordon ombilical, si je puis dire, avec l'Église. Si on va de la séquence de Sainte-Eulalie au long poème, déjà, de l'histoire de Saint-Alexis au XIe siècle, eh bien, on voit une élaboration d'abord du langage poétique, de la métrique, d'une attention aux personnages, à la séduction du récit, aux problèmes, une sorte de développement des problèmes moraux, si je puis dire, qui manifeste tout de même une maturation de cette littérature. On le voit aussi, j'ai pris Saint-Alexis qui est en langue d'Oïl, la chanson de Sainte-Foy d'Agen en Languedoc n'a pas de comparaison avec la séquence de Sainte-Eulalie. C'est un poème élaboré, émouvant, etc. On voit aussi une sorte de, non pas de conflit, mais là, le cheminement côte à côte des langues et des littératures à travers les poèmes bilingues dont on a la trace, hein, y compris ces poèmes énigmatiques. Il y a une aube, vous savez, ces chansons d'aube qui seront une grande tradition de la poésie lyrique et qui sont une grande tradition de la poésie lyrique universelle, pratiquement, et en particulier autour, dans tout le bassin méditerranéen. Ces poèmes qui soit disent la tristesse de la séparation des amants séparés par l'aube lorsque leurs amours sont clandestines, quelquefois l'exaltation vers l'amour à la naissance du jour, ou bien des aubes religieuses qui jouent sur la recommandation d'évangile, veillez, ne dormez pas, et qui le développe sous forme lyrique. Eh bien, on a, au XIe siècle probablement, un poème latin, une aube latine, dont le refrain est visiblement en langue romane, veut être de la langue romane, mais est incompréhensible. Et on n'a jamais pu. Alors, on a proposé toutes sortes d'interprétations. La plus crédible est celle de notre collègue suisse Hilti. Mais enfin, on n'est même pas sûr que ça veuille dire vraiment quelque chose. Paul Zumthor disait c'est juste pour faire bien, pour faire sonner comme la langue du peuple, n'est-ce pas ? Et nous allons voir dans un instant un exemple qui peut montrer qu'il n'avait peut-être pas tort. Et puis, donc dans le même genre, il y a, je ne sais pas, on a dans un manuscrit de Clermont une vie de Saint-Léger, on a une passion, un poème de la passion en occitan dans Saint-Clermont, qui est un poème qui donne une version synthétique, en somme, de la passion du Christ, c'est-à-dire qui fait la synthèse des trois évangiles synoptiques et de l'évangile de Jean. Donc non seulement c'est une adaptation en langue vulgaire, mais en même temps, il y a cet effort pédagogique, en quelque sorte, pour donner une version commune. Et il y a aussi, j'en dis juste un mot, un texte qui est peut-être les tout débuts du théâtre, de notre théâtre. Vous savez, ce théâtre naît de la liturgie et de la représentation de certains moments de la liturgie. Il en reste d'ailleurs un tout petit quelque chose, vous savez que dans les offices catholiques du dimanche des Rameaux, il y a une lecture de la Passion, justement, à trois voix. Un lecteur fait le récitant, le célébrant fait le Christ, et un autre lecteur fait tous les autres personnages. Bon, et ça se fait encore aujourd'hui. Eh bien, ça nous donne une idée de la façon dont est né ce théâtre médiéval, mais qui est né à partir de la musique, n'est-ce pas, de la musique liturgique. Bon. Eh bien, nous avons une très courte pièce, moins de 100 vers, connue sous le nom du sponsus, de l'époux. Et c'est une sorte de développement dramatique de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Tout ça était joué par des moines qui jouaient les rôles de femmes. On le sait parce que on a le premier drame liturgique, c'est une scène qui montre les saintes femmes allant au tombeau et trouvant le tombeau vide le matin de Pâques. Et on a un chapiteau où on voit la représentation, mais ces femmes sont des femmes à barbe pour bien montrer que ce sont des moines qui jouent leur rôle. Bon, je reviens au sponsus. J'ai peur de m'égarer, que la démonstration soit trop longue et de perdre du temps. Mais enfin, j'essaie de le dire en deux mots. Vous savez, la parabole des vierges folles et des vierges sages, le Christ dit, il en est du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui vont attendre l'époux pour les noces. 5 sont sages et 5 insouciantes. L'époux tarde, elles s'endorment, et quand elles se réveillent, vers minuit arrive l'époux, et les vierges sages avaient emporté une réserve d'huile pour alimenter leurs lampes. Les vierges folles avaient oublié. Et quand l'époux arrive, les vierges folles disent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Les vierges sages disent non, parce que si on vous en donne, il n'y en aura pas assez, ni pour vous, ni pour nous. Allez en acheter chez les marchands. Elles y vont, l'époux arrive, les vierges sages entrent avec l'époux, on ferme les portes, les vierges folles reviennent avec leur huile, tapent à la porte, et l'époux dit non, je ne vous connais pas. Et conclusion du Christ, veillez, ne dormez pas, veillez. Bon. Il y a dans cette parabole une contradiction qui n'a pas échappé aux exégètes de cette époque. C'est que elle se trouve, cette parabole, c'est toute une série de paraboles sur le thème « veillez, ne dormez pas ». Bon. parce que on ne sait pas, c'est le grand discours eschatologique du Christ, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, et il ne faut pas dormir à ce moment-là. Mais ce n'est pas ça que dit la parabole, parce que toutes les vierges ont dormi, les sages comme les folles. Alors on dit, oui, l'huile, c'est l'huile de la charité. Alors, il faut, elles ont dû aller chercher. Bon, on explique comme ça. Bon. On en fait une petite pièce de théâtre à jouer dans un cadre monastique. Cette pièce est pour l'essentiel en latin. Mais, de temps en temps, il y a des strophes chantées en français. Bon. Si... Alors, qu'est-ce qui se passe? Que faisait le public? Qu'est-ce qu'il comprenait? Eh bien, quand on lit attentivement, on s'aperçoit que pour un lecteur ou un spectateur qui comprend le latin et la langue vulgaire, le problème théologique est soulevé et résolu. Oui, elles ont toutes dormi, mais, etc. Bon. Et pour le spectateur qui ne comprend que la langue vulgaire, la leçon est seulement « dormez ». Veillez. Ne dormez pas, veillez. C'est si agréable de dormir qu'on voudrait bien que le Seigneur... Mais enfin bon, malheureusement, ce n'est pas ça qu'on nous dit. Bon. Ne veillez pas, dormez. De sorte qu'on voit là l'usage moral et pastoral de la langue vulgaire. Et en même temps, son adaptation à un public. La pièce n'est pas exactement tout public. Il y a ce qui est réservé aux savants qui peuvent comprendre les nuances théologiques et une leçon nuancée, en somme. Et puis, il y a ce que doit retenir le bon peuple qui est simple. Soyez attentifs. Excusez-moi, j'ai été trop long. Le bon peuple m'amène à ces bribes de chansons, de productions poétiques qui devaient bien exister à côté de ces efforts savants et cet effort venu du haut, n'est-ce pas, pour utiliser la langue vulgaire. On le sait déjà, Saint-Césaire d'Arles, n'est-ce pas, à l'époque, bien avant que la langue vulgaire existe, se plaignait que les femmes chantaient des chansons inconvenantes devant les églises, quelquefois même dans le cœur des églises, n'est-ce pas, et il s'en indignait. On a retrouvé assez récemment des formules magico-thérapeutiques en Languedoc. On a retrouvé, et on a un témoignage, un peu tardif, de la fin du XIe siècle, mais qui était extrêmement intéressant, à Conques, en Rouergue. C'est toujours la petite Sainte-Foy, vous savez, à Conques, donc on vénère Sainte-Foy, il y a cette statue barbare de Sainte-Foy et cette église admirable. Bon. On vénérait Sainte-Foy, mais Sainte-Foy a été martyrisée à 13 ans. Voilà. De sorte qu'on disait quand même, elle est bien jeune pour être une sainte efficace. Est-ce qu'elle est vraiment sainte? Donc, l'Église a dépêché à Conques un moine non suspect, hein, parce qu'il venait de loin, il était d'Angers, Bernard d'Angers. Bon. Et Bernard d'Angers arrive comme inspecteur, en somme, à Conques. Il assiste, donc il y avait là une abbaye, les moines, et il est indigné parce que pendant l'office, l'Église était pleine de paysans qui chantaient, dans une cacophonie atroce, des choses en riant. Enfin bon. Et alors il dit à l'abbé, mais enfin pourquoi vous ne les mettez pas à la porte? Pourquoi vous ne les faites pas taire? Oh, dit l'abbé, mon prédécesseur a bien essayé. Hein. Mais, et il a célébré l'office, les portes fermées, en verrouillant. Mais dans la nuit, Sainte-Foy lui est apparue, lui a fait des reproches sévères, lui a dit que chants de ces simples, si grossiers qu'ils soient, étaient agréables à Dieu parce que l'intention était bonne, et au petit matin, les portes s'étaient ouvertes toutes seules. Alors maintenant, on les laisse. Et alors, voyez comment cette poésie des simples sert à la fois d'illustration à la leçon évangélique sur le renversement des valeurs du monde, sur la supériorité des pauvres et des ignorants sur les riches, de béni Seigneur d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux petits, c'est cela. Et en même temps, cela contraint ce Bernard Langer à avoir une certaine révérence pour ces cantilènes rustiques, comme il dit, que d'ailleurs il ne comprend pas, parce que comme il est d'Angers, il ne comprend certainement pas les chansons du Rouergue, de sorte qu'il ne peut pas en faire son profit. Et surtout, dernier témoignage le plus intéressant, le plus célèbre aussi, mais je ne vous dis que des choses qui traînent partout, vraiment j'en suis confus auprès des savants qui m'écoutent, le plus intéressant qui passe par une littérature savante, mais une autre, c'est le témoignage des fameuses Harjaz mozarabes. Vous savez que la période pré-islamique, même proto-islamique, la poésie arabe ne connaît qu'un genre lyrique, la qassida, qui est un grand genre, le genre monostrophique, et sont des chansons de rencontres amoureuses, d'ailleurs qui ressemblent un peu à nos pastourelles. Et puis, apparaît vers le... je suis pas arabisant, ce que je vous dis, je l'ai lu dans un livre, puis le monsieur qui a écrit le livre, il l'avait lu dans un livre, comme disait mon maître. Apparaît vers le 10e siècle, apparaît un genre strophique qui s'appelle Mouacha ou Zajal, selon qui est écrit en arabe littéral ou dialectal, qui se développe particulièrement dans l'Andalous, donc dans l'arabe, dans l'Espagne musulmane. Bon. Et alors, donc, ce sont des poèmes avec un prélude, des strophes en deux parties, la seconde partie correspondant métriquement au prélude, et la cauda, si on veut, la queue de la dernière strophe, hein, donc la partie qui correspond au prélude, constitue une sorte de pointe finale, un peu comme la chute d'un sonnet, si vous voulez. C'est elle qui donne son sel à la chanson ou au poème tout entier, et c'est visiblement à partir d'elle que le poème est construit. Et cette pointe s'appelle la harja. Et alors, il y avait toute une série de Mouacha ou de Zajal, soit en arabe, soit en hébreu, parce qu'il y en avait aussi en hébreu, dont on ne comprenait pas la harja. Et on s'est aperçu, enfin, il y a déjà longtemps, c'était à la fin des années 40, on s'est aperçu qu'on ne la comprenait pas, parce que c'était donc en alphabet arabe ou hébreu, on pensait que c'était de l'arabe ou de l'hébreu. Non, c'était de la langue romane. C'est-à-dire que c'était la langue des de la population conquise, des mozarabes, comme on dit. C'était du vieil espagnol. Et ces poètes de cour étaient tellement raffinés qu'ils jouaient à la fois de l'effet de citation et du contraste entre leurs poèmes et cette citation, une citation très simple, un vers ou deux. Et souvent sans rapport direct ou un rapport lointain avec le poème. Les poèmes sont souvent des panégyriques et ces citations, ce sont toujours des citations de chansons d'amour et de chansons féminines, de chansons de femmes. Et tous les indices montrent que la première tradition lyrique l'Occident est une tradition de chansons de femmes composées par des femmes ou attribuées à des femmes. D'ailleurs, Césaire d'Arles le dit lui aussi, n'est-ce pas bon ? Et alors, ces harjas, c'est quelques vers qui disent ma bien-aimée est venue, mon bien-aimé n'est pas venu, ma mère, que ferai-je ? Je suis allé à la fontaine et je l'ai attendue, belle, etc. Quelquefois plus audacieuse, l'une dit je ne t'aimerai que si tu fais se rejoindre les anneaux de mes chevilles et mes boucles d'oreilles. Le savant allemand qui a le premier édité ce texte a mis une note pour dire il s'agit peut-être d'une allusion érotique. Peut-être, oui, peut-être. Et donc, à travers ces harjas, on a d'abord la preuve qu'il existait des chansons d'amour, et je trouve des chansons de femmes, avant les premiers poèmes que nous connaissons, qui sont ceux des troubadours de Languedoc, hein, et donc ça ouvre des perspectives sur la naissance de notre littérature. Mais donc nous devons nous contenter pendant deux siècles, soit de cette, d'abord de toute façon il y a peu de choses, de cette littérature imposée d'en haut, cette littérature religieuse, édifiante, adaptée du latin, ou bien des traces d'une poésie dont on se doute bien qu'elle a existé, dont nous avons la preuve qu'elle a existé, dont nous avons des bribes, mais qui ne peut pas, à laquelle jamais les détenteurs du savoir, les clercs, n'auraient suffisamment fait attention pour créer à partir d'elle une véritable littérature. Et c'est pourquoi le moment, donc je vous disais, au tournant du XIe et du XIIe siècle, où on voit avec une certaine, enfin presque brutalement, en très peu de temps, apparaître une littérature réellement élaborée et réellement originale, pas des adaptations d'œuvres latines, eh bien ce moment est décisif, et c'est ce moment qui a concentré l'intérêt naturellement de ceux qui s'occupent de ces questions, et c'est au seuil de ce moment que je resterai, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais je dis tout de même en quoi consiste cette mutation, pourquoi pas, pour ne pas que ce soit trop frustrant, et les problèmes qui se sont les premiers posés à ceux qui ont lu, modernes, qui ont lu ces poèmes. On voit apparaître simultanément deux formes littéraires originales. En langue d'Oïle, la chanson de geste, donc ce qui est l'épopée dans nos langues, et la poésie épique, et en langue d'oc, la poésie lyrique d'amour des troubadours. Bon. Quel est le problème dans les deux cas? Dans le cas de la chanson de geste, ces chansons de geste, donc, ce sont des poèmes, de longs poèmes narratifs, strophiques, mais écrits en strophes de longueur irrégulière et assonancées. Vous savez, la différence entre l'assonance et la rime, c'est que dans l'assonance, il n'y a que la couleur vocalique qui est identique d'un vers à l'autre, et dans la rime, la syllabe entière. Des poèmes assonancés, donc encore un peu rugueux, hein, avec la même assonance tout au long de chaque strophe, qu'on appelle des laisses, de l'axiaré, laisser, une sorte d'émission de voix, hein, et avec des effets d'écho, de répétition, tout cela chanté ou psalmodié, hein, donc des poèmes qui jouent beaucoup d'une sorte d'effet de fascination et d'hypnose du langage, probablement. Ces poèmes racontent des faits qui se sont tous produits à l'époque carolingienne, sous Charlemagne ou sous son fils Louis le Pieux, à la rigueur sous ses petits-fils. Bon. Ces poèmes, donc, on les voit se développer à partir des dernières années du XIe siècle, date probable de la plus ancienne version de la chanson de Roland, puis pendant tout le XIIe, le XIIIe siècle, etc. Question: que s'est-il passé entre l'époque carolingienne et cette époque? Que s'est-il passé entre le 15 août 778, date de la bataille de Roncevaux, et la chanson de Roland, qui date de vers 1097-1098, d'ailleurs sur des arguments fragiles? Ben bon. Et alors, les uns ont dit, eh bien, il y a eu une ce qui est probable, il y a eu une tradition poétique continue, orale, qui a très tôt été une tradition poétique, et puis que nous voyons s'écrire à un moment donné. D'autres ont dit, il y a eu une tradition savante dans des manuscrits latins, et puis un jour, des poètes sont allés l'exploiter. Mais il reste qu'on voit apparaître une forme littéraire qui brusquement connaît un succès extraordinaire et qui dure pendant tout le Moyen-Âge, qui dure identique parce que c'est un genre qui sera très conservateur et qui restera presque identique à lui-même pendant tout le Moyen-Âge. Une forme littéraire qui est marquée par les préoccupations religieuses, parce qu'on se bat contre les Sarrasins, etc., mais pas uniquement, et dont les préoccupations religieuses ne sont pas avalisées par l'Église, qui ne cesse de gronder les fidèles qui s'intéressent plus à Olivier et à Roland qu'au miracle du Christ, etc. Bon, on se développe. Du côté de la poésie lyrique et du côté des troubadours, il y a un problème presque encore plus grave, enfin qui concerne aussi la chanson de geste, ou presque encore plus difficile, mais qui concerne aussi d'ailleurs la chanson de geste, c'est que il est même étonnant que nous ayons une poésie. Parce que dans l'Antiquité païenne, comme dans la plupart des civilisations, la poésie était un médium du sacré. La tragédie grecque est quelque chose de sacré. Les poèmes homériques sont les livres sacrés de l'Antiquité. Il n'y a pas toute la tradition, d'ailleurs, avec cette religion qui admet des variantes, mais enfin, tout repose là-dessus, sur Homère, sur les hymnes homériques, sur Hésiode, puis voilà. Bon. Mais arrive là-dessus le christianisme. Et ça change, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Les psaumes sont un moyen de communication avec Dieu. Bon. Et sont des poèmes inspirés. Il y a tant de représentations de David inspiré. Bon. Le christianisme introduit une situation extrêmement différente, parce que dans une religion qui vous dit que Dieu s'est fait homme, qu'il a marché parmi les hommes, qu'il a parlé, qu'on a recueilli ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc., voilà. Eh bien, on n'a plus besoin de la poésie. On a une sorte de témoignage direct. Voilà. Et au contraire, la poésie induit en erreur, parce que la poésie est source de mensonges. D'abord, ce que le Moyen-Âge appelle poésie, le mot même de poésie pendant très longtemps, désigne justement la mythologie païenne, donc quelque chose qui est considéré comme faux. Et puis, le vers, versus, ce qui revient en arrière, le vertere, eh bien, c'est quelque chose de sinueux, quelque chose qui ne va pas droit au but. Tandis que la prose que Isidore de Séville, dans ses étymologies, rapproche de prosum, pour prorsum, c'est ce qui va en ligne droite, droite au but. Dieu parle en prose, le Christ a parlé en prose. Et alors, la poésie ne peut qu'induire en erreur. La poésie est futile. Et puis, comment justifier le furor poeticus, cet enthousiasme qui saisit le poète et qui le fait composer? C'était Apollon, c'était les muses, c'était Dionysos, c'était ce qu'on voulait, mais là, n'est-ce pas? Bon. De sorte qu'il y a, pour le Moyen-Âge, une difficulté à légitimer même l'existence de la poésie. Et on peut lire, on pourrait lire l'ensemble de la littérature du Moyen-Âge ou faire une histoire de la littérature du Moyen-Âge comme l'histoire d'une reconquête de la légitimité de la poésie jusqu'au moment où même, comme poésie inspirée, elle est admise. Bon. J'en reviens à mes troubadours. Donc, ces premiers, avec Guillaume IX, le truculent comte de Poitiers, qui écrivent des poèmes que nous avons complètement conservés dans une langue moderne et qui développent une idée de l'amour si nouvelle. Je n'ai pas le temps, ce serait d'autres sujets, c'est bien connu. Une idée de l'amour si nouvelle et portée par une poésie elle-même nouvelle, parce que cette idée de l'amour est celle de la tension de l'amour et des contradictions du désir. L'amour comme à la fois angoisse et joie, le désir comme désir d'être assouvi et crainte de mourir comme désir au moment de son assouvissement. Et tout cela, traduit dans le langage poétique, entraîne un langage poétique tendu, difficile, compliqué, contradictoire, pour que ces tensions, ces contradictions de la poésie soient reflétées dans la langue. Et c'est pourquoi la poésie des troubadours est une poésie difficile et parfois volontairement hermétique. Mais en même temps, c'est une poésie qui met l'amour au centre de tout et qui fait de l'amour la source même de la poésie. Si nous, aujourd'hui, nous, quand on nous dit poésie, nous pensons immédiatement amour, si nous considérons que faire des vers quand on est amoureux, c'est naturel, on considère que oui, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et on fait des sonnets qui la font, on écrit des sonnets qui la font rire, enfin pour paraphraser Rimbaud, eh bien, c'est à cause des troubadours. Et pourquoi cela chez les troubadours ? Pourquoi l'amour est-il pour eux au cœur de la poésie ? Eh bien, c'est mon hypothèse, je peux me tromper, parce que l'amour peut procurer cet enthousiasme, ce furor poeticus qu'on dénie à une inspiration religieuse, puisque le bon Dieu chrétien ne va pas s'embarrasser de ses frivolités, et parce qu'on ne peut plus compter sur Apollon pour vous inspirer. Il reste l'amour. Et je crois que c'est à cette première dévalorisation chrétienne de la poésie, puis revalorisation au Moyen-Âge, c'est à la faveur de ce mouvement que l'amour s'est trouvé introduit au centre, au cœur de la poésie. Regardez dans la poésie antique, bon, il y a bien une poésie élégiaque, érotique, amoureuse, mais c'est toujours un genre mineur. Les grands genres poétiques de l'Antiquité, c'est l'épopée et la tragédie, ne sont pas des genres essentiellement amoureux. C'est vraiment une nouveauté médiévale et une nouveauté dont nous vivons encore. C'est ainsi que les conditions d'apparition de la poésie en langue romane ont eu pour conséquence qu'à nos yeux, la poésie, c'est avant tout la poésie d'amour, que la poésie est le langage de l'amour, ce qui n'était encore une fois pas le cas avant le Moyen-Âge. L'harmonie de la poésie, la difficulté de la poésie, eh bien, ce sont l'harmonie de l'amour et la difficulté de l'amour. Les mots de la poésie sont comme l'amour, doux et âpre, exaltant et mélancolique. Et les troubadours recherchent les sonorités rugueuses, les monosyllabes accrochant toutes sortes de consonnes, tout ce que Malherbe condamnera, mais qui dit si bien cette âpreté délicieuse l'amour. Alors, bon, c'est un nouveauté comme une autre. C'est pas le Big Bang, c'est pas Lucie, c'est pas bon, etc. C'est une petite chose, je vous. Bon. Mais c'est une petite chose qui, quand même, depuis 1000 ans, nous aide à vivre, nous console de vivre. Ça vaut quand même quelque chose. Je vous remercie.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique ?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
dans ce capital, il ne dit pas d'un capitalisme.
l'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010. À la découverte de nos origines. Une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais,